One, two, three, ho!
J'en ai vu un autre reporter. J'ai cru que c'était le tien parce qu'il était pas électrique. C'était écrit Eco Bike, machin, je sais pas quoi. Vous êtes plus toutes seules, les meufs. Il y a un nouveau triporteur dans la ville. Il faudrait pas que...
On va le tuer, on va le tuer.
On va lui crever ses pneus. Il faudrait pas.
Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 103 qui sera consacré au magazine Cycle Magazine, le numéro 17, puisque vous savez depuis tout ce temps-là qu'on fait Pause Vélo, que à chaque fois qu'il y a la sortie du magazine, eh ben, on y consacre un numéro. Comment ça va les copains? Camille, ça roule?
Impeccable.
Tu vas nous parler de quoi?
De la peur.
La peur. C'est Line, ça roule?
Ça va, ça va. Moi, je vais vous parler d'une jeune fille qui s'appelle Catel Alençon.
Ouais. Et ça, c'est la classe. Alençon, c'est pour ça qu'on a parlé
d'elle. C'est pour ça, et puis parce que moi, j'ai aussi une petite anecdote à rajouter.
Et qu'aujourd'hui, on enregistre à Alençon. Derrière les boutons, il y a Hubert. Ça va, Hubert? Il fait signe bien, de bien. La tête. Ah, il peut parler, ça c'est bien, c'est cool. Et puis on a Xavier du blog Tellement Geek qui est là et tu vas nous parler de geekerie aujourd'hui.
Et ouais, je vais vous parler de vélo et nouvelles technologies. On va aborder rapidement le sujet.
Sylvain, toi l'épisode 103, ça t'inspirait quelque chose?
D'une mobylette peut-être.
Ouais, c'est ça, hein, la terrible mobylette Peugeot qui faisait du bruit. Moi non plus, ni de scoot, j'étais en vélo, je suis resté en vélo moi, messieurs dames. Je veux vous le sachiez. Alors comme l'épisode il est consacré...
Je peux peut-être vous raconter de quoi je vais parler. On va pas poser la question.
Oh la vache, oui, c'est vrai.
On s'en fiche, on va pas.
C'est ça.
C'est Camille qui a dit qu'il fallait pas qu'on me parle, non?
C'est ça.
Elle m'aime pas, Camille.
Tu vas parler de quoi?
Allez, du Tour de France, voilà, du Tour de France.
Bon, c'est bien, voilà, c'est bien. On le sait, maintenant on est content et on peut passer à quelque chose d'intéressant. On s'adore dans cette émission. Céline, tu as décrypté un article de Cycle Magazine pour nous. Tu vas nous parler d'une cycliste sportive, Catel Alençon. Alors moi, je pensais qu'elle était normande, qu'elle était du coin. Eh ben non, c'est
pas
une bretonne.
Tout. C'est une bretonne. Elle habite à Le Drennec, dans le Finistère, et elle fait partie du club vélosport de Drennecois. Catel Alençon a participé aux Jeux paralympiques de Tokyo de cette année. Elle est arrivée cinquième quand même. Elle a deux disciplines. Elle a la course en ligne et le contre-la-montre.
Ouais, parce que Catel, elle a une jambe en moins,
je vais vous expliquer en fait ce qui lui est arrivé. Elle fait du vélo depuis l'âge de 5 ans, parce qu'elle a suivi ses frères dans la discipline. Puis à 20 ans, sa cheville a vrillé. Une entorse qui s'est aggravée en algodystrophie. Alors je vous explique, c'est des douleurs atroces dans les articulations. Mais personne la croyait en fait, disait que voilà, c'était dans sa tête. Elle a fait appel à plein de chirurgiens pour justement arriver à l'amputation. C'est elle qui a pris la décision de amputer sa cheville jusqu'à, je crois que c'est à la moitié du tibia. Donc 5 ans de souffrance, c'est deux fauteuils. Et au bout de 5 ans de souffrance, elle a dit, bah voilà, il faut que je reparte, il faut que je fasse quelque chose de tout ça. Elle a amputé en 2011 et elle devient donc la fille à la jambe de pirate pour tous ses collègues et tous les enfants qui la voient. Elle est en fait équipée d'un pilon, un espèce de morceau qui en fait vient s'accrocher sur sa pédale. Directement au bout, il y a quelque chose pour mettre sur la pédale.
Ah, comme les chaussures à clipser,
voilà,
mais là,
c'est
direct
ça.
Sur le pied.
Directement. Donc, elle, là-bas, elle s'occupe des enfants. Elle intervient aussi dans les écoles pour expliquer ce qui lui est arrivé. Et elle est membre de l'équipe de France et de l'équipe Cofidis. Elle a passé 15 à 20 heures sur son vélo et cela a été payant puisque depuis sa préparation depuis décembre, elle est partie à Tokyo et donc elle a fini cinquième. Donc elle était contente parce que c'était ce qu'elle s'était promise d'au moins arriver dans les 5 premiers. Elle avait déjà participé aux Jeux paralympiques de Rio, mais elle était revenue sans rien, ça n'avait pas fonctionné comme elle voulait. Elle regrette vraiment beaucoup le manque de médiatisation du vélo. Hein, elle trouve que plus ça va, plus on commence à mettre les femmes face dans cette discipline-là, mais que c'est encore compliqué. Elle avait une phrase qui m'a un peu touchée, c'est qu'elle dit que l'important n'est pas de guérir, mais d'apprendre à vivre avec ses mots M-A-U-X. Et donc c'est pour ça qu'elle s'est lancée le défi. Alors elle avait deux disciplines, elle avait donc la course en ligne et le contre-la-montre. Donc le contre-la-montre, elle a réussi cinquième, mais elle a dû abandonner sur la course en ligne puisque elle a eu plusieurs fois sa chaîne qui s'est barrée et puis plus de grands plateaux. Ah, donc là, pour les termes techniques, je vous laisse expliquer. Moi, je ne suis pas assez forte.
Trahi par la technique.
Alors, ce qui est marrant dans toute cette histoire, genre, ce qui est marrant, c'est une petite anecdote que je vais rajouter à ma petite chronique sur Catel d'Alençon, C'est que moi, il y a, en 2015, quand j'ai débuté comme formatrice, il y a eu un article dans l'Ouest France qui a été consacré déjà à Catel d'Alençon. Et que moi, en fait, c'est le nom qui m'avait attirée et le fait qu'elle soit, comment dire, handicapée. Je l'avais proposé à mes jeunes, en fait, comme texte, avec des questions pour les sensibiliser justement au monde du sport et des gens qui participent aux JO et à toutes ces formes de sport paralympique.
Et tu l'as rencontrée ?
Non, j'ai pas pu la rencontrer parce qu'à l'époque, voilà, c'était dans le feu de l'action. Je venais juste de prendre mon poste de formatrice, mais c'est marrant que tu m'aies proposé de faire un article sur ça, quoi, parce qu'on a eu la même idée sans s'en être parlé.
Voilà. On lance un appel à Catel d'Alençon.
Ouais, ça serait bien.
Ouais, ouais. Salut Catel.
Viens nous voir et viens parler avec nous, voilà, de tes grands projets maintenant. Depuis que je crois qu'elle, elle, le projet prochain, c'est évidemment les Jeux paralympiques de en France.
Les sprinteurs qui ont un bout de jambe en moins, ouais, qui courent avec, qui sont plus en handisport finalement. Ils sont tellement, c'est tellement bien fait maintenant les attelles, je sais pas comment on appelle ça, que ils peuvent les comment on appelle
prothèses.
Ça les prothèses, ouais, prothèses, que ils peuvent courir avec les valides et arrête de te marrer, toi, je t'ai vu sur le côté là. Et je me demandais si, bah, pareil, les cyclistes, ils arrivaient à courir avec les valides, mais alors apparemment, non, c'est pas encore.
Mais bon, en tout cas, cet article, voilà, j'ai voulu le prendre aussi parce que c'est une belle personne, c'est une personne très pétillante, elle a toujours des étoiles dans les yeux, dans ce que les gens peuvent en dire d'elle. Donc, moi, je trouve que c'est génial d'avoir le sourire malgré tout, parce que c'était pas une décision facile à prendre.
Ouais. Je voulais juste réagir sur on pourra dire ce qu'on veut des Jeux Olympiques, mais c'est quand même grâce aux Jeux Olympiques qu'aujourd'hui, il y a du sport paralympique à la télé. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le CIO vend les droits télé aux chaînes, elles obligent, c'est un package en fait.
Oui,
c'est et donc du coup, comme elles dépensent de l'argent pour ça, elles finissent par le diffuser et trouver des sponsors. Mais sans ça, personne ne prenait les droits des Jeux paralympiques, ou très peu.
Le CIO qui a forcé la main aux diffuseurs.
Bah, c'est dans le même package et du coup, c'est un peu plus cher. Et pour le coup, bah, il faut rentabiliser aussi.
Moi, je vibre autant, hein, parce que tant qu'il y a des Français, tout ça. Ouais,
les gars. Moi,
et
ça,
si vous voulez voir des médailles françaises, vaut mieux regarder les Jeux paralympiques parce qu'il y en a plus dans les Jeux paralympiques. Enfin, en tout cas, les Français, il y a moins de médailles d'or, ceux qui sont moins bien classés au total.
11 médailles
mais
d'or.
Mais ils ont plus de médailles, les athlètes paralympiques français que les athlètes valides français.
En fait, au total, ils ont eu 54 médailles, 11 or, 15 argent et 28 bronze.
Oh, on dirait que c'était préparé, ça, Céline.
Bah oui, j'étais regardé un petit peu quand même.
Moi, je crois que c'est de tête. Hein.
Oui, c'est ça. Merci.
Alors, Sylvain, Tour de France, mais pas n'importe quel Tour de France, je crois.
Ah ben oui, aujourd'hui, on va parler du Tour de France, mais attention, effectivement, pas le même Tour de France. Merci d'avoir bouffé les premières phrases de ma chronique.
Ah, pardon, je savais pas.
Je ne vais pas vous parler de la compétition sportive avec les 200 voitures d'équipe, la caravane publicitaire de 10 km qui pollue les routes de France en jetant des merdes en plastique et des échantillons de saucisson sur un public de beaufs.
C'est exactement ça.
Oh là là, ils s'emportent tout seuls.
Non, non,
je suis d'accord avec
ça. Ça fait des années que je me pose la question, qui ramasse les bouteilles en plastique des cyclistes?
Moi.
Les équipes.
Ah non, les bidons. Si j'y trouve, mais des fois ils balancent dans les fossés ou dans des falaises.
Alors non, j'ai absolument rien contre le Tour de France, mais il faut avouer quand même que le vélo a bon dos quand on voit tout le merdier qu'il y a autour de la course.
C'est vrai.
Voilà,
c'est
ça
vrai.
C'est dit. Non, aujourd'hui, je vais vous parler du Tour de France des crèmeries. Si, si, ça existe et c'est le Ouest France qui nous le raconte. Victor et Arthur Cordel sont deux frères jumeaux d'Evendorf dans l'Est de la France, passionnés de fromage et partis sur les routes de France depuis le 5 juillet. Alors ils se sont donné des petits blazes hein, pour leur aventure, appelez-les donc Frometon et Reveton.
D'accord.
Alors vous allez me dire, mais pourquoi l'Ouest de France s'intéresse à deux petits gars de Moselle? À moins peut-être que ce soit le Ouest France, qui était un journal franco-allemand de l'Est de la France. Mais bien pas du tout. Ouest France les a rencontrés parce qu'ils arrivaient à Camembert dans l'Orne. Camembert qui représente selon eux le patrimoine fromager international. Bah ouais, le cliché quoi. Le bon français avec son béret, sa baguette, son camembert et son Ouest France sous le bras.
La marinière.
C'est pour entre 39 et 45 ça. Bref, ils venaient de passer par Croûte avant d'arriver à Camembert. Ouais, il y a bien un village qui s'appelle Croûte dans l'Orne, effectivement.
À côté de Camembert, en plus, c'est ça qui est terrible.
Ça ne s'invente pas. Et ils affichaient déjà 3500 km au compteur. Une belle performance, donc. Alors, si le journaliste qui a écrit l'article se fait plaisir et utilise tout le champ lexical de la crèmerie, il ne nous dit pas si nos deux Mosellans se nourrissent exclusivement de fromage pendant leur périple, qui devrait se terminer le 5 octobre. Alors, ces deux fils hein, d'exploitation agricole rêvent d'ouvrir une fromagerie dans un avenir proche. Un beau voyage donc rempli d'échanges avec nos deux cyclistes pour qui le fromage n'est plus un Munster.
Oui, et yeah. Ça, c'est que tu as repris.
On l'avait, ouais. On l'avait, mystère, minster. Ouais, c'est cool. Alors, par contre, bah, ils nous expliquent que les fromagers passionnés qu'ils ont rencontrés pendant leur voyage, n'hésitent pas à révéler leurs secrets de fabrication. Alors, même si c'est à vélo, bah, ça reste de l'espionnage industriel. Faut pas avoir peur des mots. Et bien, suite à ce voyage, hein, la Chine a annoncé vouloir faire un tour de France à vélo, des centrales nucléaires, des usines high-tech et des usines automobiles en France.
Ah, voilà. Les Chinois, ils vont nous bouffer.
Hein. Non, évidemment, c'est faux, bien sûr. On embrasse nos amis chinois. Enfin, on embrasse. Un tchèque, quoi.
Et avec le masque.
Avec le masque. Je terminerai donc cette chronique avec la dernière phrase de l'article, parce que j'ai pas trouvé mieux. Une belle histoire de quoi en faire tout un fromage.
Ouh! Mais il y a beaucoup de tours à vélo comme ça. Il y a tellement maintenant de cyclo-voyageurs ou de gens qui font des tours comme ça, qui sont obligés de trouver un thème pour se démarquer des autres. Alors, je savais que t'allais faire un article, enfin, que t'allais faire une chronique sur ça, donc j'ai noté quelques trucs dont j'ai déjà entendu parler. Alors, tous les ans, il existe le Bière Tour.
Oui.
Où ils vont récupérer, ils vont dans les.
Ils doivent être nombreux à s'arracher.
Oui, il y a du monde. Ils vont faire des tours, ils vont filer un coup de main avec les champs de houblon, ils font le tour des brasseries, tout ça. Il y a le tour des libraires, donc c'est les libraires qui font des boucles. Je sais qu'ils sont passés autour du lac Léman, ils ont fait le tour, puis ils vont dans les médiathèques, ils filent des livres et tout ça. Il y a par exemple, j'ai vu un documentaire des gars qui se faisaient les montagnes d'Asie centrale avec des vélos en bambou et des pneus larges. Fallait vraiment, tu sais, qu'ils trouvent un truc pour se démarquer des autres. Et puis, il y a des cyclo-voyageurs qui ont fait quelque chose sur les graines. Ils voyageaient, puis ils récoltaient des graines. Alors, à mon avis, quand tu pars avec cette idée-là en tête, on va faire le tour du monde pendant 4 ans, puis on va récolter des graines, ça tient 2 mois. Après, les graines, t'en as plus rien à secouer.
C'est ça.
Moi, j'ai fait le tour de France, les yeux bandés, et j'aurais pas dû commencer par la forêt des Coupes.
Ah, les arbres, un peu risqué.
Très, très dur. J'ai fait 200 mètres.
On avait dans l'émission aussi, on avait Mercycle qui faisait le tour de France des fermes et voulait apprendre des choses sur l'agriculture et puis aussi elle nettoyait des fois quand elle se retrouvait toute seule, elle nettoyait la route et puis elle faisait un paquet avec les déchets. C'était son thème de voyage. Et puis il y a les innombrables personnes qui font des tours pour sensibiliser à telle ou telle maladie. Vous avez entendu parler de trucs un peu bizarres, des tours à thème un peu... J'en ai plus en tête là, j'ai fait le
tour de taille peut-être.
Le tour de taille, ouais, tour de hanche, tout ça. Non, voilà.
Le tour Angeau, très bien aussi.
Alors on va retourner avec le magazine Cycle Magazine, le numéro 17, le numéro d'été quoi. Et on a une lecture de Quentin sur l'extrait d'un article dont le titre est passionnant, c'est « On n'oublie jamais sa première bicyclette ».
En hiver, quand il y avait du brouillard, un vrai de vrai en ce temps-là, les cyclistes surgissaient de nulle part, par milliers, comme des fantômes, pour disparaître après quelques secondes dans un froissement de roues et de chaînes. Un spectacle magique. Comme tous les enfants, j'avais moi aussi envie d'une bicyclette. Jusque-là, mon père me transportait assis sur le cadre de la bicyclette. Et je me rappelle encore parfaitement la fois où j'ai laissé mon pied dans les rayons, mais c'est une autre histoire. Donc un jour, mon père m'a emmené au magasin de bicyclettes des frères Aliprandi, situé à quelques pas de la maison. Les bicyclettes étaient suspendues au plafond et ont respiré cette odeur forte et unique de pneus et de fer. Je suis sorti de là heureux, sur la selle d'une petite bicyclette rouge avec petites roues, prêt pour débuter ma carrière de cycliste. Sur une photo que je conserve jalousement, on me voit vêtu avec élégance, le sourcil froncé tel l'officier condottiero, à côté de mon Aliprandi flambant neuve. La marque existait déjà depuis une trentaine d'années, et malgré le peu d'informations existantes, en cherchant bien, j'ai mis la main sur une affichette de 1925 qui célébrait la victoire sur une bicyclette Aliprandi du junior Arturo Branciani à la 4e étape du 13e Giro d'Italia. On y voyait la marque écrite en très gros caractères et l'adresse de la boutique de Corla. J'ai aussi déniché une photo datant de 1923 de Giuseppe Pancera, excellent coureur, se pavanant dans sa tenue de course signée Aliprandi. Pour finir, j'ai découvert que Tullio Campagnolo utiliser une bicyclette Aliprandi lorsqu'il courait en indépendant au début des années 1920. Cela me semble pas mal, non? Entre-temps, en 1955, je me donnais de la peine et j'apprenais à aller à bicyclette d'abord avec 4 roues, 2 plus de petites, et mon père pliant graduellement les supports des petites roues vers le haut, j'étais déjà capable de tenir en équilibre. Un jour, il a enlevé les petites roues. J'avais appris à conduire ma bécane sans même m'en rendre compte. Je me souviens de cette journée. Je continuais à tourner dans la cour de la maison, et j'avais l'impression de voler. J'ai ainsi commencé à découvrir le monde, naturellement sous le contrôle strict de ma mère, que ce soit clair. Les routes empruntées étaient celles des alentours, une zone philosophique, où les rues s'intitulaient rue Théocrite, rue Démosthène, rue Aristote. Mon trajet préféré, l'étape souveraine. était l'itinéraire de la maison jusqu'au jardin du nonno. Moins de 300 mètres à plat, un trajet d'athlète avec finale au sprint et prime à l'arrivée. Une tomate juteuse sponsorisée par le nonno. Une des meilleures choses du monde.
Voilà, c'était un extrait de Cycle Magazine, le numéro 17. Xavier, tu vas nous parler de trucs de geek sur le vélo.
Bah oui, parce que je suis un peu le geek de la bande, voilà. Un tout petit peu. Oui. Il se trouve que quand tu nous as demandé qui était opérationnel pour l'enregistrement de cette émission-là, j'étais en train de scroller sur Facebook et je tombais sur un souvenir d'il y a 3 ans d'une innovation d'un vélo et ils avaient supprimé la chaîne. Ça supprime 8 points de pression. En fait, une chaîne, on se rend pas compte, mais il y a 8 points de friction au total. Et en fait, alors à la radio c'est difficile à expliquer, mais au niveau du pédalier, en fait, il y a juste une barre derrière et qui finit par une sorte de grosse fleur. Et en fait, cette grosse fleur est en contact avec les pignons arrière. Et en fait, c'est le seul point de friction. Et en fait, ça fait qu'il y a moins de force à utiliser. Enfin voilà. Donc c'est un souvenir. Et sur le coup, je me suis dit, mais ça, c'est une super innovation. Il y a des gens qui travaillent sur les innovations du vélo. Donc je me suis mis à taper innovation 2022 vélo. Et en fait, je suis tombé sur le vélo électrique parce qu'en fait, beaucoup de gens réfléchissent au vélo électrique. Puisque ils se sont aperçus qu'il y a voilà,
ça décolle.
Ça décolle. Camille nous avait fait une chronique. Elle attendait un vélo cet été. Elle recevra qu'en 2023. Enfin, c'est juste la folie. Il y avait encore ce matin sur France Info, ils faisaient un sujet sur le vélo puisque il y a une sorte de grosse enveloppe qui a été développée. Ils voudraient passer de 3% à 9% de personnes qui utilisent le vélo parce que les chiffres que tu donnes régulièrement, les trajets en vélo plus rapides que la voiture, tout ça, ils en sont conscients. Donc il veut faire quelque chose. Et je suis tombé sur 3 vélos dont je vais pas donner la marque, mais en ce moment, il y a 3 vélos nouvelle technologie qui se tirent la bourre. En les regardant de plus près, il y a des trucs qui ont le mérite d'apporter vraiment de super trucs. Déjà, votre vélo est connecté à votre téléphone. Alors ça, c'est, vous n'êtes pas obligé. La seule chose que ça apporte, c'est si jamais vous voulez faire des longs voyages, le GPS, tout ça, ça permet de faire des choses sympas. Ça permet de géolocaliser le vélo. Ça permet de pas se le faire voler parce que du coup, c'est plus du gravage, c'est des puces. Alors, il y aura toujours des gens pour réfléchir au fait de comment voler votre vélo avec les nouvelles technologies, mais en tout cas, ça le mérite qu'on s'y intéresse. Après, il y a 2-3 trucs que j'ai adoré, c'est le clignotant, parce qu'il y a un des vélos dont la batterie est à l'arrière, qui fait office presque de porte-bagages, et en fait, on se retrouve avec 2 gros phares à l'arrière qui sont super visibles. Ils font office de clignotant, et ça, c'est quelque chose qui manque sur les vélos, d'être bien visible des voitures, donc des clignotants serait une bonne idée. Et l'autre technologie que j'ai aimé voir, il y a un des vélos dont le guidon vibre, il est en relation avec votre téléphone ou le GPS, et en fait votre guidon vibre un petit peu à droite ou à gauche suivant la destination que vous voulez. C'est-à-dire que si vous rentrez votre chemin, je veux aller à tel endroit, et que vous voulez pas avoir votre le nez sur le GPS ou sur l'écran, en fait vous pouvez faire confiance à votre guidon au moment où il faudra tourner à droite.
Ah, t'as la poignée de droite.
Ouais, la poignée de droite vibre un peu, et ça vous dit la prochaine intersection, il faudra tourner à droite ou il faudra tourner à gauche. Et il y a aussi le fait qu'il y a de la détection. Maintenant, ils font ça aussi pour les vélos. La détection de chute, c'est-à-dire que votre vélo est programmé pour appeler un numéro d'urgence d'un proche ou des choses comme ça, c'est-à-dire s'il détecte une chute. Donc il y a plein de technologies qui sont bien. Et à côté, il y a des gens qui réfléchissent aussi, on en parlait au téléphone quand tu m'as demandé, il y a un gars qui a inventé une sorte de petite sacoche à mettre dans le dos, et en fait dès qu'il pleut, ça se déplie et ça fait comme une sorte de grand parapluie qui vient se fixer sur le devant, et du coup on se retrouve comme avec une grosse cote pour être protégé. C'est pour les gens qui font du vélo non sportif,
en Normandie
pas mal, ou en Bretagne, mais surtout qui ne supportent pas les vêtements de pluie et qui ont fait le choix d'être en costard ou en vêtements de travail et qui veulent pas avoir à se changer en arrivant au travail. Là, ça fait vraiment une grosse coque comme la fameuse moto où on est protégé, ou les scooters où il y a une coque là. Et ça se range très très facilement, et c'est un petit sac dans le dos, ça se déplie. Et comme il planche maintenant sur les airbags pour vélo, je sais qu'il y a un airbag qui s'accroche autour du cou, et dès que ça détecte un mouvement de chute, en fait, ça se gonfle et ça englobe carrément le cou et la tête. Donc il y a vraiment des gens qui réfléchissent à des nouvelles technologies en vélo. Je pense que si ça pouvait donner l'envie aux gens de se dire, ah, c'est cool de faire du vélo, je peux garder mon téléphone dans ma poche, il est connecté à mon vélo, et puis ça peut être utile. Du moment que ça donne envie aux gens de faire du vélo.
C'est pas mal ce que tu dis, parce que moi j'allais te dire, ce que j'aime bien, c'est la simplicité sur le vélo. Genre le clignotant, tu tends le bras, quoi. Mais ce que tu dis, c'est vrai, si ça permet d'attirer des personnes à faire du vélo, ok, ok, c'est bon, ça marche.
Alors, j'achète. C'est bien que tu parles de tourner le bras, on en parlait l'instant. Moi, j'ai été obligé d'accompagner ma copine qui reprenait les études à la faculté cette année et qui avait pris la sage décision d'y aller en vélo parce qu'après tout.
Félicitations, la copine.
Ouais, bravo.
Centre-ville, université de Toulon, on a calculé, il y en a pour 10 minutes en vélo. Sauf que c'est quelqu'un qui est vraiment pas à l'aise au vélo et elle a tellement peur en vélo qu'elle ne peut pas lâcher son guidon. Elle peut tendre un bras sur le côté, mais elle peut pas faire l'autre tellement elle est pas assurée. Donc c'est pour ça que le coup du clignotant, en tout cas, c'est une solution. Même s'il y a des choses qui existent déjà, hein, des sacs à dos, ou juste des choses qu'on rajoute par le sac à dos avec une petite télécommande, mais quelque chose qui soit bien visible, qui signale avec des avertisseurs, des choses comme ça.
J'ai une question moi, en termes de geekerie. Ouais. Le vélo autonome, c'est pour quand?
Ah, qui se gare tout seul.
Il y avait une vidéo qui était sortie qui était complètement fausse où le vélo il tenait debout, etc. Et il allait se ranger, etc. On s'était rendu compte que c'était une connerie parce que il y a pas de contrepoids en réalité sur les côtés, ou alors il faudrait des sacoches, etc. Pour mais ce serait un rêve. Tu t'arrêtes, le vélo il rentre chez toi. Et puis...
Maintenant il paraît qu'il y a même des sonnettes. Tu règles la sonnette avec ton téléphone et c'est plus des sonnettes, c'est des c'est des gros trucs. Voilà, c'est bon. On aime faire du vélo et on aime le faire savoir.
On va retourner avec le Cycle Magazine. J'ai fait l'interview de quelqu'un qui a déménagé pendant le premier confinement. Elle est partie, elle a dit « je déménage ». Elle a fait traverser toute la France d'est en ouest pour terminer à Madrid. J'ai interviewé Florence Ramel, mon déménagement à vélo. Salut Florence, comment ça va ?
Salut Eric. Bah écoute, tout va bien.
Tu as fait un périple à vélo qui m'a énormément touché. Moi, ça m'a rappelé l'alchimiste de Paolo Coelho, genre un espèce de voyage initiatique. Tu l'as vécu un petit peu comme ça ?
C'est vrai que j'ai lu le livre et j'avais pas du tout fait le parallèle quand j'ai fait le voyage. Je suis partie dans un moment un petit peu de doute où je savais pas forcément ce qui m'attendait de l'autre côté des Pyrénées. Pour moi, ça a été un peu un moment révélateur. Quelque part, ça a été un petit peu comme l'alchimiste.
Il y a une phrase de l'alchimiste, pour ceux qui l'ont pas lu, qui dit en gros que celui qui veut vivre quelque chose et qui a un but en tête, l'univers conspire pour le guider, quoi. Et on a l'impression, quand on lit l'article, que c'est un petit peu ce que tu as vécu avec les rencontres, avec les moments difficiles. Et puis, ton but, c'était donc de trouver du travail en Espagne. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu es arrivé à Madrid, tu t'es dit, ça y est, c'est fait, là. Je fais quoi, maintenant ?
Ouais, complètement. Quand je suis arrivée sur la place, mon téléphone, en fait, avait 1% de batterie toute la journée et je le rechargeais au panneau solaire. Et au moment où je prends vraiment la dernière photo là, qu'on voit sur l'article, mon téléphone s'éteint. Plus de batterie, plus rien. Et je me dis, purée, là, ça y est, c'est la fin, quoi. Ça y est, j'y suis. Et maintenant, quoi ?
Justement, je te pose la question. Tu as fait quoi après ? Tu te dis, ça y est, j'ai tout fait. Je suis au bout, là. Tu as fait quoi ? Tu as cherché un endroit pour dormir et puis tu as commencé, parce que tu connaissais personne à Madrid. Hein.
J'avais contacté des gens avant sur Warm Showers, plateforme géniale en fait, qui héberge des cyclistes. Et du coup, j'avais ce contact-là de ces gens. Et en fait, c'était un gars qui réparait des vélos. Donc, j'ai demandé aux gens en fait où était le magasin. J'avais le nom du magasin de vélos. Et puis j'y suis allée et c'est génial. Ils m'ont hébergé 3-4 jours. Et finalement, après, j'ai trouvé une sous-location de un mois dans Madrid. Et encore la chance m'a souri parce que comme c'était l'été, les sous-locations, et il y avait d'énormes rabais en fait. Donc j'ai vécu dans le meilleur quartier de la ville pendant un mois et ça m'a vraiment lancé.
Tu as travaillé finalement en Espagne ?
Ouais, donc du coup je suis arrivée fin juillet. Et donc j'ai passé ce premier mois un peu à tâtonner, à me balader dans la ville, à faire des rencontres. C'est là que j'ai eu l'idée en fait de partager mon expérience sur un groupe Facebook. Et c'est comme ça que j'ai trouvé en fait un travail.
L'Espagne, au niveau du vélo, ça se passe comment ?
C'est un peu la catastrophe, en vrai. Quand on vient de la France, on a beaucoup de voies vertes. C'est un peu le paradis du vélo. Enfin, je ne me rendais pas compte en tant que Française parce que j'avais toujours trouvé que la Suisse, par exemple, y a une culture vélo beaucoup plus forte qu'en France. Mais en France, en fait, ça fait quand même une bonne décennie maintenant que ça se développe. Il y a des cartes comme ça qu'on peut télécharger d'Europe où on voit le réseau des voies vertes. Et l'Espagne, c'est un désert, quoi. Il y en a quelques-unes.
On te remercie beaucoup d'avoir partagé cette expérience dans le magazine. Allez, que la force soit avec toi, Florence. À plus. Salut.
À plus.
Moi, j'aurais bien voulu faire comme Florence, là, partir comme ça, voyager dans l'inconnu, alors que tout était fermé partout, avoir le goût de la liberté pendant que les autres sont enfermés. Alors, Camille, on va avoir peur.
D'habitude, je raconte des trucs drôles. Enfin, Sylvain, il sait pas encore.
Ah, t'essayes.
J'essaye. Je suis du genre à parler de vélo en plaçant les mots cul d'enfer. Mais oui. Cette fois, je vais faire dans un autre registre. Je voudrais parler de la peur. Parce que je me suis rendu compte que de la peur découlait beaucoup de nos choix, notamment en matière de cycle. Pour ma part, j'ai peur de parler à la radio et de m'évanouir au micro. Mais je suis là. Je me fais violence pour venir parce que j'aime trop Pause Vélo. Mais j'aime pas trop Sylvain.
Ouais. Oh, Bim, il en prend plein les dents aujourd'hui, le pauvre.
On peut l'enlever. Je change ma chronique.
Tu te vengeras, Sylvain, tu te vengeras.
Oui.
Je parle pas. Je l'ignore.
Vas-y. Je me déplace au quotidien à vélo depuis 20 ans et pas mal de mes copines me disent « Moi, je pourrais pas, j'ai trop peur dans la circulation. » Suite à mon périple de 800 km l'année dernière avec ma fille, une femme m'a contactée pour me demander de venir avec moi lors de mes week-ends vélo et bivouac sauvage. Elle avait l'envie, mais elle avait peur toute seule et elle n'osait pas le faire jusque-là. Et suite à ce même voyage, un homme m'a écrit cet été pour me remercier. Il revenait de son premier voyage à vélo, il a adoré l'expérience et m'a annoncé que ce qu'il y avait poussé, c'était mon histoire. Parce que si une maman pouvait partir seule avec son enfant, alors lui le pouvait d'autant plus.
Ah, il y a besoin de ça, hein. Il y a besoin d'avoir des exemples.
Tous ces exemples pour dire que parfois, c'est la peur qui dicte notre capacité à nous déplacer ou voyager à vélo. Peur d'avoir un accident, peur d'avoir froid aussi, peur qu'on nous agresse si on est seul en bivouac, peur de ne pas avoir la capacité physique de parcourir quelques centaines de kilomètres. On ne risque pas plus d'avoir un accident à vélo sur un chemin de cailloux à travers la campagne qu'en traversant la rue en sortant de chez soi. On ne risque pas plus de se faire agresser par un pervers en campant dans le fin fond d'une forêt qu'en sortant les poubelles le soir. Et je dis ça parce que ça m'est vraiment arrivé l'année dernière. Et je suis tombée sur un exhibitionniste devant ma maison.
Alors oh bah ça
va, ça. Ouais, ça va. Alors que j'ai campé des centaines de fois en forêt sans jamais croiser
d'exhibitionniste.
Personne. D'ailleurs, à part quelques chevreuils et rongeurs. Et si on trouve trop dur de parcourir 70 km par jour en voyage à vélo, bah alors on en fait 40, et puis c'est tout. Si on a trop froid, bah on s'équipe, il y a des manteaux, il y a tout ce qu'il faut. Il y a maintenant des espèces de parapluies qui se déploient au-dessus de nous.
Voilà. Les duvets pour le froid sont vraiment très opérationnels.
Voilà, il y a tente pour le froid aussi. Et surtout, dites-vous que si vous souffrez, c'est que les muscles travaillent. Et que si les muscles travaillent, c'est qu'au bout, vous aurez...
Un kit d'enfer.
Voilà. Je l'ai quand même placé. Et si on écoute nos peurs, on ne fait rien en fait. Ni voyage, ni vélo, ni même sortir de chez soi. Finalement, tous ceux qui dépassent leurs peurs ont survécu, n'est-ce pas Sylvain?
Et tu places cul en plus, c'est incroyable.
Ils reviennent même heureux et ils réitèrent l'expérience. La peur, c'est un sujet très fort pour moi car elle régit pas mal d'aspects dans ma vie. Et c'est justement le vélo, ma thérapie à moi. Moi, j'ai le vertige, j'ai la phobie du vide, donc de traverser des grands ponts. Et je suis tout de même partie cet été pour 1400 km de voyage au cœur de la France, tout ce mois d'août. Et j'ai eu la trouille de ma vie sur les ponts de la Loire. En plus, j'ai pas les cuisses d'une athlète, enfin j'avais au début du voyage. Et j'ai pourtant gravi donc 16 000 mètres de dénivelé. Mais je ne retiens pas ce qui m'a fait peur, je retiens ce qui m'a rendue vivante. Les belles rencontres, les paysages, la découverte de l'Auvergne, du Morvan, le dépassement de soi... La fierté d'avoir parcouru toutes ces routes à la seule force de mes mollets et d'avoir gagné un cul d'enfer.
Deux fois.
Deux fois. Voilà ce qu'il faut retenir. J'ai aussi quelques chiffres publiés donc par nos amis belges. Par mois, en Belgique, on recense 53 morts lors d'accidents de voiture, contre zéro à vélo. Les voitures permettent le déplacement de plus ou moins 1800 personnes par heure et par voie de circulation. Le vélo en permet 15 000.
10 fois plus.
Selon une étude de la ville de Copenhague, une voiture coûte alors 0,021 euros par kilomètre à la collectivité, quand le vélo, lui, rapporte 0,034 euros par kilomètre. Sans compter que la voiture pollue, l'air comme l'environnement sonore, alors que le vélo est propre et silencieux et qu'en plus il est bon pour la santé. Je le dis ou pas qu'il fait un cul d'enfer?
Mais
ça, tu crois? Ils ont compris?
Le running gag, quoi.
Voilà. Donc n'ayez plus peur. Soyez simplement confiant et prudent quand même. Croyez en vos jambes, en vous, en vos convictions écologiques ou économiques et faites du vélo.
Ils sont dingues quand même ces chiffres. C'est-à-dire que on les entend nous ici à chaque fois qu'on fait l'émission, on a des chiffres.
Bah, c'est évident.
C'est
enfin,
juste fou et on aimerait tirer une cloche d'alarme en disant mais ils sont là les chiffres, servez-vous-en et faites quelque chose quoi.
C'est une réalité physique, matérielle qu'il faut faire du vélo, il n'y a pas mieux. Et les chiffres tu les as trouvés sur la page Facebook de
Culture Bicyclette.
Culture Bicyclette. Et du coup si vous pouvez.
Et c'est une des villes de, c'est la ville de Liège qui les a.
Qui édite ça.
Ouais.
Donc on s'inspire de tout ce qu'on trouve un peu sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez aussi des idées idées, des choses que vous voulez qu'on mette dans l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Et ben voilà, n'hésitez pas à nous liker, nous partager, nous commenter. D'ailleurs, ce que j'aimerais bien que vous mettiez, c'est si vous avez entendu parler de grands voyages, de boucles à vélo, avec des thèmes un peu étranges. J'aimerais bien connaître, avoir des idées sur ça. On va se quitter là-dessus, et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,
faites du vélo!